Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5. Ce matin, nous allons parler du fait de marcher par l'Esprit. Alors, je n'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit, mais je crois qu'il est bon, des fois, de réentendre certaines choses. Paul disait qu'il ne se lassait pas de répéter certaines choses parce que pour les Philippiens, c'était salutaire. Et je crois que pour nous aussi, il y a des choses que nous devons entendre et réentendre parce que c'est salutaire pour nous. Donc on va aller dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5. C'est un texte qui est connu. Et on va lire à partir du verset 16. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Et c'est sur ce dernier verset que j'aimerais qu'on s'entretienne ce matin. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et on voit dans ce verset qu'il y a deux choses. C'est si nous vivons par l'Esprit, alors marchons selon l'Esprit. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'il y a deux choses. Il y a le fait de vivre par l'Esprit et il y a le fait de marcher selon l'Esprit. Vous êtes d'accord? Alors on va regarder ces deux choses parce que c'est important de comprendre cela. Et on va essayer d'être pratique. Mais pour comprendre ces notions, il nous est dit de vivre par l'Esprit, de marcher selon l'Esprit. La première chose qu'il faut toujours savoir, c'est que tout cela a rapport avec le Saint-Esprit. À un moment, quand Paul va visiter les églises, il va aller voir l'église d'Éphèse, et à un moment, il va leur dire « Mais avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Et ils vont lui répondre « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Donc on voit que les premiers chrétiens, en tout cas, les disciples qu'il y avait à Éphèse, ne savaient même pas qu'il y avait le Saint-Esprit. Alors je pense que vous le savez. Qu'il y a le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit a été répandu. Et je pense que nous le savons. Mais la question que l'on peut se poser, c'est mais quelle est l'importance que nous donnons au Saint-Esprit? Oui, c'est une chose de le savoir, de savoir que le Saint-Esprit a été répandu, mais quelle est l'importance que nous lui donnons? Qu'est-ce que ça change dans la vie? Qu'est-ce que ça change dans votre vie de savoir que le Saint-Esprit a été répandu? Parce que c'est quelque chose qui est très important. Qui est très important. Quelle est l'importance que nous donnons au Saint-Esprit dans nos vies, à sa personne? Quelle est l'importance que nous donnons au Saint-Esprit dans l'Église? Quelle est l'importance que nous donnons au Saint-Esprit dans nos familles? Quelle est l'importance que nous donnons au Saint-Esprit pour le service que nous avons à apporter à l'Église? Quelle est l'importance que nous donnons au Saint-Esprit? Est-ce que nous vivons par lui et marchons par lui? Ou est-ce que nous faisons les choses comme s'il n'était pas là? Il y a le Saint-Esprit. La Bible enseigne, vous le savez, que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il est écrit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté, elle est là où il y a le Saint-Esprit. C'est dans 2 Corinthiens 3, 17. Dans Jean 4, 23, 24, « Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » On a plusieurs textes où il nous est parlé l'Esprit de Dieu. Un texte dans Romains 8, verset 9, où il est écrit « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la présence de Dieu. Dans le psaume 139, David dira « Mais où fuirais-je loin de ton Esprit Saint ? Où irais-je loin de ta face ou de ta présence ?» Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Vous savez que Dieu se manifeste en trois personnes. Il y a le Père qui est au-dessus de tous. Le Père est au-dessus, il règne. Mais il y a Jésus qui est venu avec nous, au milieu de nous. Et il y a le Saint-Esprit qui est venu en nous, dans notre cœur. Et on voit qu'au travers des trois personnes dont Dieu se manifeste, il y a la progression de Dieu. Il est au-dessus de nous, il vient parmi nous et il vient en nous, en nous. On voit que dès la création, le Saint-Esprit, il agissait déjà. Les deux premiers versets de la Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Job, il dira, « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Le Saint-Esprit, c'est Dieu avec nous. C'est Dieu avec nous. On le sait intellectuellement, mais est-ce qu'on le réalise ? Est-ce qu'on le réalise ? Donc il y a deux notions. Il y a la notion de vivre par l'Esprit et il y a la notion de marcher par l'Esprit. Vivre, c'est quoi ? Vivre, c'est avoir la vie. Avoir la vie. Vous êtes d'accord que si vous vivez, c'est que vous avez reçu la vie à un moment. Vous êtes d'accord avec moi ? Il y a ce texte qui est connu où à un moment, il y a cet homme qui s'appelle Nicodème qui va lui dire, mais... où il nous est dit dans Jean au chapitre 3, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vient, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut recevoir le royaume de Dieu. » Vous êtes d'accord que naître, c'est recevoir la vie ? Vivre par l'Esprit, c'est quoi ? Bah, c'est naître de nouveau. C'est naître d'en haut. Ça, c'est la chose la plus simple. Naître de nouveau. Alors Nicodème, il va poser la question. Mais comment cela peut-il se faire ? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Mais Jésus va lui dire, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, naître d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Plus loin, il dira, le vent souffle où tu veux, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Naître, c'est recevoir la vie. Il en est ainsi de tout homme qui reçoit la vie de l'esprit. Plus loin, il dira, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Plusieurs fois, c'est répété. Avoir la vie, elle vient d'où ? Elle vient du Saint-Esprit. Et vous savez, à un moment, il va dire à Nicodème, mais tu es docteur de la loi et tu ne sais pas ces choses ? Parce qu'il y a un texte, justement, dans l'Ancien Testament qui parle de ce que c'est que la nouvelle naissance. Il y en a un, c'est dans Ézéchiel, au chapitre 36, je vais vous le lire. Il est écrit au verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » On voit trois étapes. Premièrement, je vous purifierai. Il est parlé de l'eau. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. La première chose, c'est la purification. Et vous savez que pour nous, la purification, c'est le sang de Jésus. Il nous est dit que le sang de Jésus purifie de tout péché et de toute iniquité. La première étape, c'est d'avoir un cœur propre, purifié du péché. Et quel que soit le péché, quelles que soient les choses mauvaises que nous avons pu faire, nous pouvons être pardonnés parce que Jésus est mort pour nous à la croix. Et lorsque l'on croit en Jésus-Christ, alors il y a une purification qui se fait. D'abord, on est lavé. Mais ce n'est pas tout. Être sauvé, ce n'est pas juste être lavé. Il nous est dit après, je vous donnerai un cœur nouveau. Après être purifié, après être pardonné, il y a quelque chose qui se fait qui est surnaturel, qui se passe à l'intérieur de nous. Dieu nous donne un cœur nouveau. Je vous jetterai de votre corps le cœur de pierre, ce qui est dur, et je vous donnerai un cœur de chair. On voit qu'il y a un échange. Dieu donne, Dieu change, Dieu transforme le dedans, le cœur. Et je vais vous poser cette question. Avez-vous eu ce cœur transformé? C'est ça, vivre selon l'esprit. Et après, il dit, je mettrai mon esprit en vous, en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et on voit au final qu'il y a ces trois étapes. C'est ça la nouvelle naissance. C'est d'abord on est pardonné, ensuite on a un cœur nouveau, et enfin le Seigneur Jésus vient habiter dans notre cœur. Et on voit ces trois étapes. Jésus meurt à la croix. Pourquoi ? Pour que nous soyons purifiés. Et ensuite il va voir ses disciples et il va souffler sur eux. Et il va dire « Recevez le Saint-Esprit ». Et on voit que c'est à ce moment-là, tout comme à la création, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme et que l'homme est devenu vivant. Après la croix, les disciples qui ont cru et qui sont purifiés, Jésus va souffler. Et ils vont recevoir un esprit nouveau. Et le Saint-Esprit va venir habiter en nous. Et la Bible dit, c'est dans Galates, qu'on a l'esprit en nous qui nous certifie, qui crie « Abba, Père ». On a cette certitude qu'on a été adopté et qu'on est enfant de Dieu. Est-ce que ça s'est passé pour vous? Et je crois que pour plusieurs d'entre nous, c'est ce qui s'est passé. Nous avons cru au sacrifice de Jésus. Nous avons cru à son pardon. Nous avons demandé qu'il y ait un changement dans notre cœur. Et le cœur a été transformé. Et le Saint-Esprit est venu habiter en nous et nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et je crois que pour beaucoup, c'est ce qui s'est passé. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça veut dire que l'on marche selon l'Esprit? Non, il est dit, si vous vivez selon l'Esprit, ça c'est ce qu'on vient de voir, le Saint-Esprit vient habiter en nous, on a la vie, marchez aussi selon le Saint-Esprit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on voit que ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas parce que je suis né de nouveau, ce n'est pas parce que j'ai été ajouté à l'Église, ce n'est pas parce que je deviens un membre de l'Église, du corps de Christ, que ça veut dire que je marche selon l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est important. Puisqu'il nous est dit, si vous vivez selon l'Esprit, marchez selon l'Esprit. Bien, il y a un texte qui nous éclaire, c'est dans la première épître de Corinthiens. On va aller le lire ensemble. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2. Première épître aux Corinthiens, chapitre 2, et on va lire à partir du verset 11. Un Corinthiens 2, 11. « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. » Ça, c'est la nouvelle naissance. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour parler des choses spirituelles. Mais l'homme animal, ou alors peut-être dans certaines versions c'est l'homme psychique, ça c'est l'homme qui n'est pas né de nouveau. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, parce que le cœur, il est dur, et que le Saint-Esprit ne peut pas rentrer en lui. Il a besoin d'être purifié, changé. Donc verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » L'homme spirituel, ah, ça c'est celui qui marche selon l'Esprit. C'est l'homme selon l'Esprit. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. C'est-à-dire, c'est celui qui est mature. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Au chapitre 3, verset 1er, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne le pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. Et puisqu'il y a en vous, parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Donc on voit qu'il y a une nouvelle catégorie qui apparaît. Il y a l'homme psychique, animal, il y a l'homme spirituel, celui qui marche selon l'esprit, mais entre les deux, il y a l'homme charnel. Et on a lu au chapitre 3, verset 3, « N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» C'est-à-dire que celui qui est charnel, vous êtes d'accord qu'il s'adresse à des frères. Il dit « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je me suis adressé à vous. » Donc, c'est des frères, ils sont nés de nouveau, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais par contre, il nous est dit qu'ils marchent selon l'homme. Ils ne marchent pas selon l'esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez, marcher, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, tous les animaux qui naissent, hop, ils tombent du ventre et puis ils marchent. Mais par contre, l'homme, il faut qu'il apprenne. Vous avez remarqué ? Les animaux, ils savent marcher instinctivement. L'homme, il doit apprendre. Marcher, ça s'apprend. Et vous savez, autant vivre, c'est quelque chose qu'on vous donne. Vous avez reçu la vie, vous n'avez rien demandé. Ce n'est pas vous qui vous êtes dit un jour, je vais naître. On vous l'a donné, c'est un don. La vie éternelle, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu, c'est gratuit. Ça ne nous coûte rien. Mais marcher, ça s'apprend. Et ce n'est pas parce que j'ai reçu la vie que ça veut dire que je sais forcément marcher. C'est quelque chose qui s'apprend. Vivre, c'est un don. Marcher, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Dans Galates 5, on l'a lu, on ne l'a pas lu, si on l'a lu, au verset 16, il dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Et là, on a quelque chose de nouveau qui apparaît, c'est qu'au final, celui qui est né de nouveau, il y a un combat qui se crée en lui. Vous avez vu ? La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Est-ce que vous avez déjà vécu ce combat intérieur ? Il y a la chair, c'est le vieux moi, c'est ce que j'étais avant, et il y a l'esprit, c'est ce que Dieu est en train de créer. Et les deux s'affrontent. Vous n'avez jamais ressenti ce combat intérieur, ce tiraillement ? Si vous êtes né de nouveau, normalement, vous devez l'avoir ressenti. D'ailleurs, c'est une preuve que vous êtes né de nouveau. C'est qu'il y a en nous deux natures qui s'affrontent. Il y a la nouvelle, celle qui est spirituelle, et il y a l'ancienne, la chair. Et face aux situations, face à la vie, dans le service, dans la famille, dans l'église, il y a ces deux natures qu'on a en nous. Il y a l'ancienne et il y a la nouvelle. Et au final, on peut marcher soit selon l'ancienne, soit selon la nouvelle. Soit je marche selon l'homme, selon ce que j'étais avant, soit je marche selon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Celui qui est né de nouveau, le Saint-Esprit habite en lui. Mais celui qui est spirituel, c'est celui qui marche en comptant sur le Saint-Esprit. C'est qui marche selon le Saint-Esprit. Parce qu'il y a deux manières, au final, d'avancer dans la vie chrétienne. Soit j'avance en comptant sur moi-même, soit j'avance en comptant sur mes forces, soit j'avance en comptant sur mes pensées, soit j'avance en comptant sur mes méthodes, soit je peux avancer en comptant sur le Saint-Esprit. C'est ça quelqu'un de spirituel. Alors vous allez me dire, oui, mais si le Saint-Esprit il est en nous, comment ça se fait qu'il ne fait pas le travail ? Eh bien oui, s'il est là. Le Saint-Esprit ne force jamais. Les esprits qui forcent, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est les démons. Le Saint-Esprit ne s'impose jamais et il ne vous forcera jamais à avoir recours à lui. C'est seulement nous qui choisissons, parce que le Saint-Esprit nous respecte. Et vous savez, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est en moi que ça veut dire que je vais compter sur lui. Imaginons, dans la salle, il y aurait un super prédicateur. Il y aurait l'apôtre Paul, il serait assis là. Est-ce que parce qu'il est là, ça va changer quelque chose ? Ça dépend. Si je lui laisse la place, oui. Si on lui dit, allez-y, dites-nous ce que vous avez à nous dire, ça va changer tout. Mais si je lui laisse pas la place et que je fais comme s'il n'était pas là, que j'ai jamais recours à lui, que face à telle situation, je ne vais pas lui demander conseil, que face à telle chose, quand je vais prier, je ne vais pas lui demander de l'aide, ça ne va rien changer dans ma vie. Oui, il est là, mais je n'ai pas recours à lui. Et bien, c'est pareil avec le Saint-Esprit. Il peut être en nous, et nous sommes nés de nouveau, mais ce n'est pas parce qu'il est en nous et que nous sommes nés de nouveau que nous allons marcher, avancer, faire un service, vivre notre vie de famille en comptant sur lui. C'est seulement si on choisit de compter sur lui, si on choisit de vivre selon lui, alors que nous pouvons et que nous deviendrons spirituels et que nous apprendrons à marcher. C'est ça, quelqu'un de spirituel. C'est pas quelqu'un qui a juste le Saint-Esprit en lui. Quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui et qui, dans ses combats, dans ses luttes, dans ses prières, dans son service, va compter sur lui. Jésus va dire, il est avantageux que je m'en aille, parce que si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que vous avez un avantage avec vous? Si Jésus, il est allé à la croix, si Jésus, il est mort, s'il a tant souffert, c'était pour nous purifier. Mais le but, après de nous avoir purifiés, c'est que son Saint-Esprit vienne en nous. C'est le but. Et qu'il vienne en nous pour que nous puissions compter sur lui, que nous puissions marcher selon lui. Et c'est ça qui est important. C'était en Jean chapitre 16, verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et vous savez que le Saint-Esprit est venu. Vous savez que le Saint-Esprit est répandu. Et je sais que dans le cœur de plusieurs, il y a le Saint-Esprit. Il est là, il est présent. Il atteste à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Il crie « Abba Père, il est là !» Mais est-ce que je compte sur lui? Est-ce que je compte sur sa présence? Que fait le Saint-Esprit? Là, on l'a lu, le Consolateur viendra vers vous. Est-ce que vous avez besoin de consolation? Est-ce que des fois, on a besoin d'être consolé? Parce que ce n'est pas facile, parce que c'est dur, parce qu'on est blessé. Est-ce que je compte sur le Saint-Esprit? Ou est-ce que je vais chercher des méthodes ailleurs? Est-ce que lorsque je suis blessé, est-ce que lorsque je suis triste, est-ce que lorsque je suis abattu, je compte sur le Saint-Esprit? Ou est-ce que je fais, ou je cherche des choses comme s'il n'était pas là? Le Saint-Esprit a été envoyé pour consoler. Est-ce que vous comptez sur lui pour votre consolation? Le Saint-Esprit, il convaincra le monde, Jean 16, 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Vous savez, dans l'Église, celui qui convainc, ce n'est pas le prédicateur. Ce n'est pas les frères. Celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Et nous, on ne peut pas faire son travail. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est compter sur lui. Et c'est tout faire pour qu'il soit libre au milieu de nous de faire comme il veut. Vous savez, lorsque l'on parle les uns avec les autres, lorsqu'on se conseille les uns les autres, lorsque l'on prie les uns pour les autres, est-ce que je compte sur le Saint-Esprit? Vous savez qu'une prière inspirée, ça peut tout changer. Vous n'avez jamais entendu des prières inspirées, ça embrasse tout? Si, pourquoi? Parce que la prière, elle est faite en comptant sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit convainc. Il convainc, il met des convictions profondes. Et vous savez, quand une personne elle est convaincue, après, elle le sait. Il n'y a pas besoin d'argumenter, il n'y a pas besoin de discuter 30 ans avec la personne. Elle est convaincue. Il suffit d'une parole. Est-ce que je compte sur le Saint-Esprit lorsque je viens à l'Église, lorsque l'on passe des moments ensemble, pour qu'il y ait les convictions? D'ailleurs, la marque d'une Église où il y a le Saint-Esprit, c'est les convictions. Quand les gens viennent et qu'il y a le Saint-Esprit, ils sont convaincus. Certains donnent leur vie, certains fuient. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui se passe, parce qu'il y a des convictions. Est-ce que je compte sur le Saint-Esprit? Quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Est-ce que j'ai besoin d'une direction? Est-ce qu'il y a une situation, je ne sais pas comment faire? J'ai besoin de savoir ce qu'il faut faire? Le Saint-Esprit, il conduit. Est-ce que je compte sur lui pour qu'il me conduise, pour qu'il me dirige? J'ai besoin du Saint-Esprit pour savoir des fois ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation. J'ai besoin d'équilibre, je ne veux pas être légaliste, je ne veux pas être laxiste non plus, ce n'est pas facile d'être équilibré. Est-ce que je compte sur le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, on l'a lu tout à l'heure, il donne la maîtrise de soi, il donne l'équilibre, le Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on n'est pas extravagant. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on est plein de maîtrise de soi. Est-ce que je compte sur lui ? Le Saint-Esprit, on l'a lu tout à l'heure, il vivifie. Jean 6, 20, 63, c'est l'Esprit qui vivifie. Et dans la version Semeur, c'est l'Esprit qui donne la vie. Est-ce que je compte sur lui ? Vous avez quelqu'un dans la famille qui est inconverti ? Comment vous allez faire ? Vous allez lui parler ? Ou est-ce que vous allez compter sur le Saint-Esprit qui lui donne la vie ? Est-ce que je compte sur le Saint-Esprit ? 2 Timothée 1, 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'ai besoin de force ? Je suis fatigué ? Est-ce que je compte sur le Saint-Esprit ? J'ai besoin de sagesse ? Est-ce que je compte sur le Saint-Esprit ? J'ai besoin d'amour ? Est-ce que c'est facile d'aimer ? Ben non, il n'y a rien de plus difficile. Non, de plus facile, ouais, difficile. Mais aimer, ce n'est pas évident. Mais il nous est dit quand même que, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit pour aimer, selon Dieu. Parce que sinon, il se passe quoi ? Ben, on aime ceux qu'on aime bien. On fait des préférences. On fait des groupes, vous savez. Alors que quand on aime d'un amour désintéressé, comme le Seigneur le veut, eh ben, on a besoin de son Esprit Saint. Le Saint-Esprit, il protège. Ésaïe 59, 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Le Saint-Esprit, il protège. Vous avez besoin d'être protégé, d'être en sécurité. Est-ce que vous comptez sur le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit, il protège. On l'a lu tout à l'heure, le Saint-Esprit donne la liberté. La liberté, la vraie liberté. J'ai besoin du Saint-Esprit. Et quand on est plein du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, mais on est libre. On est libre. Le Saint-Esprit, il glorifie Jésus. Toujours dans le chapitre 16, verset 14, Jésus, il va dire, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il glorifiera Christ. Et quand on se réunit, c'est quoi le plus important ? C'est qui le plus important ? C'est Jésus. Vous êtes d'accord ? Ce que l'on veut lorsqu'on se réunit, c'est que Jésus soit glorifié. C'est que ça soit lui qui soit mis en avant. C'est que les gens soient au contact de Jésus-Christ. Mais pour que ça soit ça, on a besoin du Saint-Esprit. Vous savez, il ne faut pas tomber dans un extrême où il y a certaines églises, ils font du Saint-Esprit le centre de l'église. Le centre de l'église, c'est Jésus. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et un pasteur qui disait, si Christ n'est pas au centre de l'église, c'est comme une roue qui est excentrée, ça tourne mal. Et vous savez, toutes les dérives qu'il peut y avoir au nom du Saint-Esprit, vous savez de quoi je parle, les gens qui rigolent, qui font des bruits d'animaux, qui tombent, toutes ces choses-là, à l'origine, ça vient d'où ? Ça vient d'une soif de surnaturel, et au nom du Saint-Esprit, ils font n'importe quoi. Parce que le Saint-Esprit, s'il a été donné, c'est pour que Jésus soit au centre. Mais si on veut que Jésus-Christ soit au centre, on a besoin du Saint-Esprit. Parce que s'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est toujours autre chose qui vient au centre. Mais si je veux que ça soit Jésus qui soit glorifié, j'ai besoin du Saint-Esprit. À un moment, il y a une vision dans l'Apocalypse. Il y a Jésus et il y a 7 chandeliers d'or autour de lui. Et il nous a dit que les 7 chandeliers d'or, c'est quoi ? Les églises. C'est les églises. Et les églises, elles font quoi ? Les chandeliers, ils font quoi ? Elles éclairent Jésus. Le but d'une église, c'est que le nom de Jésus soit glorifié. Le but d'une église, c'est pas qu'on parle de l'église de Sainte-Agne, qu'on parle de l'église évangélique, qu'on parle de l'église pentecôtiste, qu'on parle de tel mouvement ancien, tel mouvement nouveau. C'est pas ça le but de l'église. Le but de l'église, c'est que Jésus soit glorifié. Et le seul nom qui doit être mis au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus. Aucun autre. Le seul nom qu'on veut qu'il soit au-dessus de tout, c'est le nom de Jésus. Mais pour cela, on a besoin du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord ? C'est ce dont on a besoin. Et le Saint-Esprit, il répand les dons spirituels. Et combien on a besoin aussi d'aspirer aux dons spirituels. Il nous est dit, hein, aspirer aux dons spirituels, aux dons du Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, etc. Et il y a différentes choses. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Un seul et même esprit qui distribue toutes ces choses. Mes frères et sœurs, est-ce que l'on aspire à ces choses? Que le Saint-Esprit manifeste sa grâce au milieu de nous? Est-ce qu'on y aspire? Mais est-ce qu'on le demande? On peut se poser la question, est-ce que ce matin j'ai demandé à Dieu de manifester sa grâce par le Saint-Esprit? C'est une question qu'on peut se poser. Parce que vous savez que si on le demande, on le reçoit. Que si on demande à Dieu de bonnes choses, on le reçoit. Oui, il y a vivre, il y a marcher, et l'étape d'après, c'est être rempli du Saint-Esprit. Et là aussi, vous savez, à un moment, il y avait le temple, et dans le temple, il y avait la présence de Dieu. Mais il y a eu des moments où la gloire de Dieu a rempli le temple. Et il y a des moments où la présence du Saint-Esprit peut être tellement forte qu'elle manifeste sa gloire. Est-ce que vous aspirez à ces choses? Parce que c'est le but de l'Église, c'est qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Si nous nous assemblons ensemble, c'est quoi? C'est pourquoi? C'est pour être remplis du Saint-Esprit. Et on voit dans la Bible combien des personnes qui étaient faibles, des personnes qui avaient peur, des personnes qui avaient du mal à croire, des personnes qui avaient tous les défauts du monde, qui venaient de toutes sortes d'horizons différents, des personnes, oui, qui étaient disciples de Jésus, oui, qui le suivaient, oui, qui faisaient des choses avec eux, oui, qui avaient manifesté des miracles, mais on les voit avant la Pentecôte, combien ils étaient dans la peur. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont bouleversé la face entière de la terre. Ils étaient 200. Mais par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont cru à la promesse et qu'ils s'y sont attendus et ils ont reçu. Et vous savez que cette promesse, elle n'est pas pour les premiers chrétiens. Cette promesse, elle est pour tous ceux que le Seigneur appelle, en aussi grand nombre qu'il les appelle. Et c'est pour nous, cette promesse-là. Est-ce que vous voulez être remplis du Saint-Esprit, mes frères et sœurs? Parce que vous savez, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, Jésus-Christ est glorifié. Et lorsque Jésus-Christ est glorifié, l'Église, elle accomplit son but. Et lorsque le Saint-Esprit est au milieu de nous, les gens qui nous visitent, les gens qui viennent, ils sont convaincus. Et le but, vous savez, ce n'est pas de remplir un bâtiment. Le but, ce n'est pas d'avoir plus de monde dans une dénomination. Le but, c'est de remplir le ciel. Et c'est que les âmes qui sont perdues, celles qui se meurent, elles puissent être sauvées. C'est ça qu'on veut. Vous êtes d'accord? Alors, il nous faut chercher la présence du Saint-Esprit.